Alors, je ne parle pas forcément de cette église, mais les églises où se frottent des gens fort divers et qui, de ce fait, connaissent des problèmes de cohésion, d'équilibre, d'harmonie, ne datent pas d'hier. Nous sommes dans les premières années de notre ère, dans la riche province de Macédoine, à Philippe, ville cosmopolite s'il en est, et là déjà, une jeune assemblée lutte pour préserver son unité. C'est pour l'assister dans ce noble effort que l'apôtre Paul, son père spirituel, s'adresse à elle en ces termes particulièrement touchants. Et là, je me réfère à la lettre qu'il a écrite aux Philippiens. Nous lisons dans cette lettre, au chapitre 2, les versets 1 à 4. Philippiens 2, versets 1 à 4. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un désir de gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Après avoir invité ses amis philippiens donc à tenir ferme contre les ennemis extérieurs, Paul, on le voit, leur confie la clé qui doit leur permettre d'obtenir la victoire. L'unité au prix notamment de l'humilité. C'est que tout n'est pas si simple dans l'église de Philippe. La cohabitation entre riches et pauvres, par exemple, ou juifs et grecs, et romains, ne va pas de soi. Et il n'est pas exclu qu'Épaphrodite, le fidèle compagnon de Paul, ait rapporté quelques nouvelles alarmantes à ce sujet. D'où la préoccupation, fort légitime, de l'apôtre et son appel vibrant et pathétique adressé à tous les membres de l'église de Philippe, verset 2, « Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord ». Appel à l'unité, donc. Une unité dont il nous dévoile aussitôt, en même temps qu'à ses amis de Macédoine, la raison d'abord, les manifestations ensuite, et pour finir, le secret. Trois thèmes que je vous propose maintenant de reprendre dans cet ordre. Et tout d'abord, l'unité, sa raison. Pourquoi cette unité, si elle était réalisée, ferait-elle la joie de Paul ? Réponse, parce qu'il la sait, cette unité voulue par Dieu. Verset premier, je relis. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, alors, poursuit l'apôtre au verset 2, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. La raison de l'unité espérée par Paul pour l'église de Philippe, comme d'ailleurs pour la nôtre aujourd'hui, c'est le projet de Dieu pour elle. Et quand je dis Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu l'Esprit. Dieu le Fils d'abord. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, écrit Paul, que veut-il dire ? Le sens du terme qu'il utilise ici est largement discuté. Exhortation, encouragement, réconfort, impossible de trancher. Mais le fond du message est clair. S'il en est un qui veut l'unité de l'Église, c'est bien lui, Christ, qui n'a de cesse qu'il n'ait procuré à ses disciples tout ce dont ils ont besoin, exhortation, encouragement, réconfort, pour vivre devant lui en parfaite harmonie. Et je dis, plaise à Dieu que tous ici nous prêtions attention à cet appel de notre Maître et nous appliquions sans tarder à y répondre. Dieu le Père ensuite. S'il y a de la consolation dans l'amour, écrit Paul, et un peu plus loin, s'il y a de la tendresse et de la compassion, soyez un. Quel est cette fois son argument? L'amour n'est pas seulement la tendresse aussi et la compassion dont il parle, sont à l'évidence ces vertus divines que le Père se plaît à communiquer à ses enfants. Et pourquoi? Pour que, riche de ses qualités surnaturelles, ils puissent être consolés, qualifiés, ils le sont enfin pour réaliser le rêve de leur Père, être toujours étroitement liés par le lien insécable de l'amour et de ses dérivés. Et là, je dis encore, plaise à Dieu, que nous tous qui avons reçu de lui ses propres sentiments, les sentiments qui sont en Dieu, les mettions avec joie au service de notre unité. Et puis Dieu l'Esprit. S'il y a une communion de l'Esprit, ajoute Paul. Que veut dire maintenant l'apôtre? Très simplement, je crois, qu'à partir du moment où nous sommes en Dieu, son Esprit nous habite. Or, c'est aussi la volonté, et donc le ministère de l'Esprit, que de nous rapprocher les uns des autres pour que nous soyons en communion toujours plus étroite les uns avec les autres. Et je prie encore, plaise à Dieu, que nous tous ici, qui avons l'Esprit en nous, et j'ose espérer que nous l'avons tous, le laissions faire son œuvre, cet Esprit, à savoir nous rendre toujours plus solidaires les uns des autres. Ainsi, la raison de l'unité à laquelle, avec les Philippiens, nous sommes appelés aujourd'hui, est-elle bien la volonté de Dieu, Dieu le Fils qui nous encourage à être un, Dieu le Père qui nous accorde les grâces dont nous avons besoin pour parvenir à cette unité, Dieu l'Esprit qui, à moins de lui résister, nous entraîne immanquablement les uns vers les autres. Voilà pour la raison. Considérons maintenant, si vous le voulez bien, les manifestations de l'unité telle que la conçoit l'apôtre Paul. L'unité, ces manifestations. Verset 2, « Rendez ma joie parfaite », écrit-il, « en vivant en plein accord, ayez un même amour, un même cœur et une unité de pensée. » Tout un programme. Et un programme exigeant, mais à la réalisation duquel les membres authentiques de l'Église de Christ, qu'ils soient de Philippe ou de Gobert, ne sauraient se soustraire. Tant il nous est apparu cher aux yeux de Dieu, du Dieu trinitaire que nous confessons et adorons. D'où l'exhortation, fraternelle certes mais ferme, de l'apôtre, « Rendez ma joie parfaite !» Comme s'il manquait encore quelque chose pour que son bonheur, en pensant à ses amis philippiens, pour que son bonheur soit total. Et qu'il attendait d'eux qu'ils lui procurent sans tarder ce quelque chose. Savoir que leur unité se manifeste de telle sorte qu'elle devienne une évidence pour tous. Alors cela dit, intéressons-nous maintenant aux formes d'expression de cette unité que Paul cite en exemple dans notre texte. Elles sont au nombre de quatre. Et tout d'abord, un même projet, dit-il, un même projet. Rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord, littéralement en ayant un même projet. Le verbe que nous retrouvons ici évoque en effet avant tout dans ce contexte un projet, et un projet appelé à s'exprimer dans des actes concrets. D'où cette paraphrase possible, « Rendez ma joie parfaite en vous entendant sur un projet commun que vous serez unanime à soutenir. » D'où nous concluons que si nous ici désirons mettre un comble à sa joie, non plus de Paul mais de Dieu lui-même, il nous faut apprendre à nous retrouver régulièrement sur des objectifs d'Église à la réalisation desquels nous prendrons plaisir à contribuer tous. Ce que d'aucuns appellent unité d'intention et d'action. Unité d'intention et d'action. Voilà pour une première manière d'exprimer aujourd'hui l'unité que le Fils et le Père et l'Esprit nous pressent de rechercher. Mais il en est une deuxième que nous propose Paul, un même amour. Verset 2 toujours, je cite, « Rendez ma joie parfaite, ayez un même amour. » L'appel cette fois est à cet amour mutuel qui devrait être le premier signe distinctif de toute Église, à commencer donc par celle de Philippe et jusqu'à celle de Gobert. Ce n'est que lorsque nous aurons enfin appris à nous aimer les uns les autres, comme nous avons été aimés les premiers, que commencera de briller, pour le plus grand bonheur de Dieu, ne l'oublions pas, notre unité. Plaise à Dieu que tous nous vivions cet amour, qui s'interdit toute acception de personne, mais embrasse au contraire chacune et chacun de ceux que le Seigneur lui-même nous a donnés comme proches parents. Sœur, frère, en lui. Voilà pour une deuxième façon de manifester aujourd'hui l'unité que le Fils, que le Père, que l'Esprit nous presse de rechercher ce matin encore. Il en est une troisième que suggère Paul, un même cœur. Verset 2, encore et toujours, « Rendez ma joie parfaite, ayez un même cœur ». Littéralement, ayez une même âme. Et l'injonction ici est à cette harmonie interne qui devrait être le propre de toute Église, de l'Église de Philippe donc, et de la nôtre aussi par conséquent. Point de place dans une assemblée comme celle-ci pour des désaccords durables. Sur les questions essentielles, qu'il s'agisse du contenu de la foi, de la vie selon Dieu ou de la marche du groupe. Puissions-nous entendre cet appel également et ne nous épargner aucun effort pour nous retrouver tous aussi souvent et vite que possible, je dis bien aussi souvent et vite que possible, en phase, tant en manière de conviction que d'attitude où j'y reviens, de projet. Utopique cet objectif ? Non. Dès lors que la bonne volonté est devenue notre marque de fabrique, si je puis dire, ce but est atteignable. Voilà pour une troisième manière donc de démontrer de nos jours l'unité que selon Paul, et le Fils, et le Père, et l'Esprit nous pressent de rechercher. Il en est une quatrième que je mentionne maintenant. Un seul but, un seul but. Verset 2, encore et toujours, notre traduction cette fois, « Rendez ma joie parfaite », écrit Paul, « ayez un seul but plutôt qu'une unité de pensée », comme le propose la Bible Second 21 que j'ai utilisée jusqu'ici. L'expression qui apparaît ici touche aux objectifs que l'on se donne. Elle reprend la première, vivez en plein accord, mais en lui donnant un sens nettement plus fort. Il s'agit pour Paul de convaincre ses lecteurs de traduire maintenant leur unité en ramenant tout leur projet à un seul central. Reste à savoir lequel. Alors, des diverses hypothèses émises, nous ne retiendrons ce matin que la plus vraisemblable. La diffusion tout simplement de l'Évangile, tant par la parole que par les actes. Tendez vers ce seul but, nous dit Paul en tant qu'Église, tendez vers ce seul but, la propagation, ici et là et jusqu'aux extrémités de la terre, de la bonne nouvelle en Christ. Tous peuvent dans l'instant retrouver la paix avec Dieu, la bonne nouvelle. Plaise à Dieu que notre unité à nous dans cette Église s'exprime aussi par cette poursuite commune de l'objectif suprême qui nous a été fixé, la proclamation de l'Évangile, avec pour double vecteur notre confession de foi et notre style de vie. Notre confession de foi et notre style de vie. Voilà donc en bref pour les manifestations attendues de notre unité. un même projet, un même amour, un même cœur, un seul but. Le moment est venu pour nous d'examiner notre troisième et dernier thème de réflexion. L'unité, oui, mais son secret cette fois, son secret. On le trouve dévoilé au verset 3 et 4. Son secret, c'est l'humilité. L'humilité. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais, commande l'apôtre Paul, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Alors comment se peut-il que des chrétiens aussi divers que les membres de l'Église de Philippe, comment se peut-il que des femmes et des hommes aussi dissemblables que nous, ici, répondent un jour à l'attente divine en affichant leur unité, comme indiqué par Paul dans le verset précédent? Réponse de l'apôtre, c'est simple, il suffit que chacun, de son côté, fasse preuve d'humilité. L'humilité, une vertu capitale qui mériterait à coup sûr quelques développements et que Paul donc prend soin dans notre texte de décrire, négativement d'abord, comme une forme de renoncement, positivement ensuite comme une manière de poser sur les autres un autre regard. Alors permettez qu'avant de conclure, nous prenions le temps de nous arrêter sur cette double approche de l'humilité. En tant que clé maîtresse de l'unité. L'humilité vue comme un renoncement d'abord. C'est ainsi que Paul entame sa description. Début du verset 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. » D'où nous concluons que le secret de l'unité dans l'Église et que ses membres soient assez humbles pour, primo, s'interdire une bonne fois toute forme d'envie, de jalousie, de compétition, de concurrence, de rivalité, et deux, abandonner toute prétention, ambition ou arrogance qui ne sont jamais que recherche exaspérante d'une gloire pitoyable. Amis qui m'écoutez encore, il y en a quelques-uns, semble-t-il, prions Dieu. Prions Dieu pour qu'il nous rende capables d'une telle humilité, renoncement. Quand, dites-moi, notre unité a-t-elle été le plus menacée? N'est-ce pas lorsque, ayant cessé d'être vigilants, nous nous sommes laissés aller à nous comparer les uns aux autres? Ou à nous mettre en avant? Préoccupés que nous étions soudain devenus, redevenus de flatter un ego surdimensionné. Oui, l'humilité, secret fort heureusement éventé de l'harmonie, la concorde, l'union dans l'Église, est d'abord renoncement. Mais elle est aussi positivement cette fois un autre regard. D'où ce second titre, l'humilité vue comme un autre regard. Et c'est ce qui ressort avec force de la fin du verset 3 et du verset 4. Je cite encore, « Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. » Alors, avant d'examiner cette seconde approche de l'humilité par Paul, notons qu'elle est propre au christianisme. Dans la pensée grecque de l'époque, l'humilité est considérée comme vile et méprisable. De fait, si l'Ancien Testament déjà, puis les écrits de Qumran, se risquent à la présenter comme une qualité, il faut attendre Jésus pour qu'elle trouve enfin sa place parmi les vertus les plus enviables, l'humilité. Mais intéressons-nous maintenant à la façon dont l'apôtre développe ici le volet positif de l'humilité. Comme souvent dans ses lettres, Paul se veut pratique plutôt que théorique, d'où son choix. Son choix ici d'insister moins sur l'essence de l'humilité que sur le changement dans son comportement qu'elle induit immanquablement. un changement qui consiste pour l'essentiel en un autre regard. Un autre regard porté sur les autres. Et l'apôtre de préciser alors la nature de ce regard. Il s'agit d'un regard qui, un, élève les autres et deux, promeut leur intérêt. Un regard qui élève les autres d'abord. Seconde partie du verset 3, avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Comme le souligne un commentateur, cet autre regard implique un dépouillement de soi, contraire aux tendances de la nature humaine, reconnaissons-le. D'où nous concluons qu'il ne peut qu'être le produit de l'œuvre divine en nous, plus précisément le fruit de l'action régénératrice que l'Esprit Saint a commencé en nous et qu'il s'est promis de mener à son terme pour le jour de Jésus-Christ. C'est par lui, l'Esprit, en effet, qu'après avoir pris la mesure de notre misère personnelle, non seulement nous renonçons à toute forme d'orgueil, mais encore nous nous plaçons joyeusement au service des autres, au service de tous les autres. Et là, je dis, puisse l'Esprit nous dissuader une bonne fois d'avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, qui que nous soyons, et nous permettre dans le même temps de regarder les autres, tous les autres, comme tellement plus dignes, eux, des attentions dont ils sont objets de, tant de la part de Dieu que de la part des hommes. Peut-être n'est-il pas inutile de rappeler ici l'origine du mot « humble » en français, tout près de l'humus, au ras de terre donc, autrement dit, on ne peut plus bas. Si bas que de ce point de vue particulier, tous paraissent si grands. Maintenant, si ce regard est d'abord un regard qui élève les autres, il est ensuite un regard qui nous pousse à chercher leur intérêt. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Après la règle, élevez les autres, à nos yeux, l'exemple concret, assez pour prendre aussi en compte leurs intérêts, et pas seulement les nôtres. Les nôtres, bien sûr, mais pas seulement, les leurs aussi. Et là, avant de revenir sur cet exemple, un mot sur le sens qu'il nous faut donner ici au mot « intérêt ». Si l'on ne peut pas exclure qu'il inclut l'intérêt matériel, il peut l'inclure, voire psychologique des uns et des autres, il nous paraît inconstable, incontestable, qu'il renvoie d'abord et surtout à leur intérêt spirituel. D'où notre interprétation, que chacun de vous soit suffisamment humble pour mettre la prospérité spirituelle de ses frères et sœurs au cœur même de ses préoccupations. La sienne, celle des autres aussi. Et je m'arrête ici pour poser la question, nous soucions-nous tous vraiment de la santé spirituelle de ceux que nous côtoyons dimanche après dimanche sur les bancs de cette église ? Leur affermissement dans la foi nous importe-t-il au moins autant que le nôtre ? Et jusqu'où sommes-nous prêts à aller sur le chemin de l'abaissement, du renoncement, voire du sacrifice pour qu'ils ne cessent pas de grandir, eux non plus, spirituellement, mais continuent de progresser, eux aussi, spirituellement, de semaine en semaine, jusqu'à commencer de refléter réellement la stature parfaite de Christ. Je pose la question. Je me pose la question. Il nous faut conclure la volonté de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint pour nous. Je la rappelle, que nous soyons un, mais vraiment un. Autrement dit, que nous ayons un même projet, un même amour, un même cœur, un même but. Et la clé pour atteindre cet objectif que le Seigneur lui-même nous accorde, cette humilité qui nous fera regarder les autres, tous les autres, comme supérieurs à nous-mêmes et leur prospérité spirituelle comme au moins aussi précieuse que la nôtre. Et le cœur de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, sera en fait comblé qu'il sera par le spectacle que nous lui offrons enfin d'une Église parfaitement une. Nous allons prier. Ô Seigneur, notre Dieu, notre bon Père Céleste, nous avons compris en lisant ta parole que ton grand projet aujourd'hui était l'édification de ton Église. Cette visibilité de ton être dans le monde aujourd'hui. Nous avons compris en écoutant les paroles de ton fidèle serviteur Paul, que tu tenais à ce que cette Église soit une. Nous faisons partie de ton projet. Nous voulons, pour t'honorer, pour te réjouir, nous voulons être un. Que ton esprit nous rapproche les uns des autres. Que ton esprit nous accorde cette autre perfection qui est en toi, qui te caractérise et qui est l'humilité. Pour que nous puissions nous aimer mutuellement comme ton Fils nous a aimés au point de se rendre le serviteur de chacun. Oui, Seigneur, ce que nous te demandons, c'est de mettre en nous cette volonté de servir l'autre, de promouvoir son bien, de l'aider à grandir devant toi. Et à cette fin d'être prêt, s'il le faut, à consentir les sacrifices nécessaires. Seigneur, mets en nous l'Esprit qui était en ton Fils, afin que nous puissions, par la qualité de nos relations, t'honorer, te réjouir, mais également briller dans ce monde qui saura alors que nous sommes vraiment tes enfants. Entends notre prière, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te l'avons présenté. Amen.